au chapitre 6, l'histoire de Gédéon. On commence au chapitre 6 des juges. Et pourquoi? Parce que le peuple hébreu est dans la terreur. Il se cache dans les ravins, dans les cavernes, parfois dans des rochers fortifiés, mais qui ne sont pas imprenables, qui sont plutôt vite pris. Au chapitre 6, verset 2. Ils sont incapables de se défendre vraiment. Et ils sont submergés par une quantité incroyable de gens qui les envahissent. Au verset 5, hein, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, ils venaient d'un pays pour le ravager. C'est des choses qui sont arrivées souvent dans l'histoire et qui se répéteront encore au moins une fois en Israël, qui se prépare. Et naturellement, ce ne sera pas de la rigolade. Au chapitre 6, toujours au verset 33, tout Madian, donc c'est l'Arabie, Amalek, c'est aussi des gens des tribus arabes, et les fils de l'Orient, donc comptons plus que c'est les Mèdes, les Perses, Syriens, Irakiens, ça. Se rassemblèrent, ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée d'Israël, qui existe bien, hein, une vallée qui existe et qui a déjà eu beaucoup. Bon, il s'est passé beaucoup de choses dans cette vallée, et Gédéon fut rempli de l'Esprit de l'Éternel, revêtu, il sonna la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Bon, évidemment, il y a des choses qui se passent. Qui vont faire que ce n'est pas Israël qui va se défendre. Ce n'est pas Israël qui va gagner, c'est Dieu. C'est Dieu qui va gagner. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, il va rester 300 hommes. Sur 32 000 hommes, il y en a 22 000 qui sont dans la crainte, et Dieu va les renvoyer. Et puis, il y en a 10 000 qui vont se plonger dans la rivière pour boire, et Dieu ne veut pas, il en garde 300 qui se sont penchés au bord, qui ont pris de l'eau dans leurs mains, qui ont bu. Il n'en reste que 300. Et évidemment, il n'est pas possible de se rendre compte, si on n'a pas eu de véritable expérience forte au niveau spirituel, de l'autorité de la parole de Dieu. L'autorité de la parole de Dieu va agir d'une façon incroyable sur l'âme de ceux qui sont là. Donc, vous avez dans le chapitre 7, j'ai déjà parlé, je ne reprends pas tous les détails, mais il y a 300 hommes. Hein. Au chapitre 7, verset 8, on prit les vivres du peuple et les trompettes. Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente. Il retint 300 hommes. Et évidemment, dans les ennemis, il y en a déjà qui savent qu'ils vont perdre. Dans les ennemis, il y en a déjà qui savent qu'ils vont perdre. Ça, c'est au verset 13. Ils sont avertis. Comme un peu quand les gens étaient à Jéricho, que Josué arrive avec le peuple d'Israël. Ils savent qu'ils vont déjà perdre. Donc, au chapitre 7, verset 13, il y a de ces gens, parmi les personnes arabes, là, qui ont un songe et qui se rendent compte que c'est Gédéon qui va gagner. Au verset 14, vous voyez, Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Et évidemment, au verset 15, levez-vous, l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. C'est l'autorité de Dieu qui a déjà la main, le contrôle. Dans ce monde chaotique, ce monde difficile d'aujourd'hui, où plein de gens sont très secoués, moi, de plus en plus, je me rends compte qu'il y a des visites à faire, qu'il y a des tas de contacts à faire et qui prennent du temps. Je ne vois jamais quelqu'un vraiment qui est bien, qui est serein, qui s'épanouit. C'est toujours le cambouis. C'est bizarre. C'est comme ça, c'est la situation d'aujourd'hui. Hein, et bon, ça me demande évidemment de tenir le coup, ce qui n'est pas simple. dans notre situation d'aujourd'hui, on est un peu dans une situation très difficile comme la période des juges. Pourquoi ? Parce que beaucoup de croyants à l'époque des juges, Dieu dit chaque fois dans le livre des juges, chacun faisait bon ce qui lui semblait, car il n'y avait point de roi. Aujourd'hui, chez les chrétiens, c'est un peu la même chose. Le Christ est vu de 36 manières par les chrétiens. Ils ont été prendre dans toutes les boutiques un petit peu une image, ils l'ont pris, celle qui les arrange, et puis... Et c'est pas le même Christ tout qu'on fait, et chacun en tire des leçons et des comportements différents. C'est un peu comme ça que ça se passe. Et, bon, je peux pas trop donner de détails, mais nous recevons ici beaucoup de gens, parfois nous en logeons, et puis nous rendons compte qu'après un certain temps, on ne les voit plus, etc. Et tout, c'est parce que ça fonctionne pas de la même façon que dans la Bible. Et comme ils voient que nous, on ne tient qu'à la Bible ici, ben, ils ont un os à ronger avec nous, ou ça ne va pas, et puis ils s'en vont. Discrètement ou avec du bazar. C'est la vie ainsi, c'est une situation comme ça, il faut rester avec le Seigneur. Donc, quand les 300 hommes vont attaquer ce camp, ils n'ont pas d'épée. Ils n'ont pas d'épée. Ils vont sonner du chauffard, la corne du bélier, et ils vont casser la cruche, ils vont sortir la torche, ils vont mettre le feu à tous les gens. J'ai vu l'endroit, c'est clair que tout le camp a pris feu et que ça a été la panique. Mais regardez bien, ils disent des choses très importantes au verset 18, « Pour l'Éternel et pour Gédéon ». Vous sonnerez la trompette tout autour du camp, vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. Ensuite, au verset 20, à la fin du verset 20, ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Donc, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Or, ils n'ont pas d'épée. Or, ils n'ont pas d'épée. Vous savez bien que dans Éphésiens chapitre 6, Paul dit que le croyant doit être revêtu d'une armure et pour se protéger. Il y a 6 éléments défensif, mais il y en a un
offensif,
c'est l'épée à deux tranchants, c'est l'épée. Et ici, vous voyez que l'épée de l'Éternel, eh bien, en fin de compte, elle est invisible. Mais le nom de Dieu crée un trouble immense chez les ennemis. Bon, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans des maisons où il y a de l'occultisme profond. De voir des choses et il fallait que je prenne un verset biblique. Mais je ne vais pas prendre tous, je vais en prendre quelqu'un qui m'a persécuté pendant 3-4 ans au téléphone. Alors non, je vais refuser de faire une étude biblique dans une famille, chez quelqu'un qui était un artiste peintre. Je lui avais dit, il y avait des peintures partout de sodomie, etc. Des tas de trucs impudiques, mais ce qu'il y a. Il voulait que je fasse des études bibliques, il y avait même des gens qui voulaient venir. Alors je lui ai dit, écoute, tu me retires toutes ces cochonneries-là, puis je veux bien venir. J'ai déjà eu le coup à Lanzy, je pense, oui, à Lanzy, chez quelqu'un, un trader, quelqu'un qui travaillait sur les ordinateurs, qui faisait des affaires, qui jouait avec les millions, et qui avait des gros problèmes, il avait des cauchemars, il ne savait plus dormir, il y avait des tas de trucs, c'était vraiment l'œuvre de Satan. Et chaque fois que je venais, il y avait la TV allumée avec des insanités. Et je lui ai dit, mais tu arrêtes ces cochonneries-là, tu arrêtes ta TV quand je viens. Et puis après, je verrai bien si tu as de bonne volonté. Et un troisième cas, je suis tombé une fois dans la tue. Là, c'était un pasteur africain qui me demandait de faire des réunions avec lui. Et pendant que le premier contact en beau costard cravate, il était là, et pratiquement, sa femme était dans le fauteuil à côté, j'étais entre les deux, elle donnait le sein à un enfant, et il parlait bien, comme tous les pasteurs savent bien parler, ce qui parfois ne veut rien dire. Et pratiquement, c'est ce que Dieu dit qui compte, et pratiquement... je vois la femme qui regardait tout ce qui est plus bas que terre à la TV. Et il me demandait de prier. Et bon, à un moment donné, je suis parti, j'ai salué. Puis Il m'a demandé est-ce qu'on peut collaborer, on peut faire quelque chose dans la tue. Je dis non. Tu ne diriges même pas ta maison convenablement et ta femme fait n'importe quoi. Et pratiquement, il y a plein d'esprits impurs dans ta maison, tu ne les vois pas. Peut-être que déjà ils sont en toi. Et que tu cherches à me faire tomber avec toi. Il n'est pas question. Alors, tout ça, c'est la parole de Dieu qui m'aide à voir clair, mais quand vous avez, par exemple, quelqu'un qui vous dit « J'ai fait de l'occultisme, la table, les verres se sont soulevés, etc. » Puis quelqu'un m'a dit que j'allais mourir dans 4 ans. Et au moment où il le dit, le toit tremble, c'est comme s'il y avait 200-300 personnes sur le toit, ça tremble, c'est comme si on cassait le toit. Et que vous allez voir, il n'y a personne sur le toit, vous allez voir derrière, mais il y a plein de neige, il y a 30 cm de neige, il y a des traces de pas qui vont dans la neige, qui vont dans la neige, qui montent au toit, au mur, comme si quelqu'un montait au mur, là, comme ça, et puis il monte sur le toit, puis s'arrête juste à l'endroit où on était. Comment ça s'est arrêté? Comment cette personne est toujours vivante? Comment cette personne a été guérie de l'asthme? Simplement par des versets bibliques. À 3 reprises, chaque fois que le bruit reprenait, je prenais Matthieu 28, 18 à 20. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Voici, j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Allez, faites des disciples. Enseignez-les, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que j'ai prescrit. Tout pesait hein, dans ces mots-là. Eh bien, à 3 reprises, mais c'était fini. Et cette femme ne s'est pas convertie, mais elle est sauve, elle est vivante, elle a un métier et tout. Dieu est très généreux, n'est-ce pas? Il a dit, je vais te débarrasser des démons dans lesquels tu t'es trempé et du sort que tu as si tu te convertis. Non, pas du tout. Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Il a une autorité incroyable. Et vous allez voir que si la bataille est gagnée, c'est grâce à l'autorité de Dieu. L'épée de l'Éternel. C'est Dieu qui a décidé que les autres auraient la crainte de Dieu, auraient la crainte non pas des 300 hommes, avec la cruche, la trompette et la torche, mais la crainte de Dieu. Et ils se sont trucidés. Combien étaient-ils à se trucider, les amis? Est-ce que vous avez été voir, depuis déjà 2 dimanches que j'en parle, vous avez été lire le texte? Ça serait, à mon avis, un peu grave si vous n'avez pas été le lire. Je vous mets en garde. Donc, de faire comme ça, et d'attendre que ça sorte de ma bouche tous les dimanches, non, c'est tous les jours, dans la parole de Dieu, qu'il faut aller voir. Donc, Juges, chapitre 8, verset 10, Zérak et Salmona étaient à Kharkhor et leur armée avec eux, environ 15 000 hommes, donc c'est les survivants. Tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient, 120 000 hommes tirant l'épée avaient été tués. Donc 120 000 personnes se sont trucidées à Israël. Ok? Combien de personnes se sont trucidées en Syrie et en Irak depuis 5 ans? Alors qu'ils n'ont qu'une seule chose, c'est-à-dire une seule idée. Tous les leaders, une seule idée, c'est envahir Israël et le détruire. Comment ça se fait qu'ils sont trucidés? Vous n'avez qu'à regarder le texte, là. Dieu protège Israël. Pourquoi Morsi est-il en prison en Égypte? Morsi avait créé et était en train de créer une confédération islamique pour envahir Israël et faire de Jérusalem la capitale musulmane. Il est en prison parce que les militaires l'ont mis en prison, mais ce qu'il y a maintenant, la seule figure qui reste, Ben Laden a été tué, Kadhafi a été tué, Morsi est en prison et il reste une seule, Erdogan. Et Erdogan veut être le leader, le champion par télévision, rien que par sa bouche, croyant que sa bouche a une puissance contre l'Éternel, de fédérer tous les gens pour envahir Israël. Par sa bouche, il croit avoir une puissance. Pas plus que les fils d'Amalek et de Madian et de l'Orient. Il n'a de puissance. Et là, vous voyez que il veut faire la morale à Israël à propos des Palestiniens. Alors que lui, il a 16 millions à 17 millions de Kurdes qu'il ne reconnaît pas, qu'il opprime dans son propre pays. Moi, j'ai vu les musulmans en Israël, dans Israël, ils peuvent aller à l'école, à l'université, avoir des entreprises, ils ont des maisons. Il y a juste la bande de Hamas qui contrôle Gaza, qui met le pétard. La Gaza, c'est pas Israël. C'est là qu'il y a le pétard. On donne des sous de partout et ils achètent des armes. Mais ils ne construisent pas le pays, ils nourrissent pas le pays. Ils l'oppriment. C'est quand même bizarre, ça. Quand ils ont des sous, eux, c'est pour ne pas faire des tartines, ne pas faire des écoles, ne pas faire des hôpitaux. C'est pour faire la guerre. C'est drôle, ça. En Israël, avec l'argent, il y a des écoles, il y a des routes, il y a des hôpitaux, il y a de tout. Y compris pour les Arabes. Il faut aller sur place pour voir. Et pas regarder ce qu'il y a en télévision. Qui nous cache la réalité. Donc ici, 120 000 se sont trucidés entre eux. À croire qu'ils aiment bien ça, puisque ça continue encore aujourd'hui. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes, à l'Orient de Nobak et Gébéa. Il bâtit l'armée qui se croyait en sûreté. Donc, Gédéon va battre cette armée, qui en fin de compte n'a plus aucun pouvoir, les amis. Pourquoi va-t-il la battre? Pourquoi va-t-il aller s'acharner? Hein? Et puis, c'est sûr que Ephraïm va être jaloux. Ephraïm, la tribu la plus vindicative, la plus orgueilleuse, est toujours mécontente. C'est un peu comme un mal-aimé. Il n'est jamais content. Il est toujours susceptible, toujours sur les dents. Il ne voit pas les bienfaits de Dieu. Il est toujours en train de s'exciter, de s'irriter. Eh bien, c'est ça, Ephraïm, cette tribu. Eh bien, ils s'en prennent à Gédéon, bien sûr, ils sont pas contents. Mais si Gédéon n'avait pas touché à ces 15 000, qui de toute façon étaient en déroute, qui les avait laissés aller, il avait quand même gagné, c'est Dieu qui avait pris autorité. Qu'est-ce qu'il voulait se prouver, Gédéon? Il était un grand chef, qui savait mener une bataille. Mais c'est un peu lâche parce que c'est les fouillards qu'ils ont tués. Je trouve que c'est pas très brillant pour moi. C'est pas très brillant d'aller tuer les fouillards qui sans doute ont déjà fait dans la culotte depuis longtemps et se demandent s'ils vont rentrer à la maison. Pourquoi les tuer? Pratiquement, c'est après que notre Gédéon va tuer deux hommes qui sont deux chefs. Au verset, le chapitre 8, verset 21, Zébak et Tsalmouna. Donc il y avait. Le fils ne veut pas être tué, donc les deux hommes sont très orgueilleux, ne peuvent pas rentrer à la maison battus. Donc il vaut mieux mourir, c'est comme les Japonais, hein, quand ils ont perdu la guerre. Tous les officiers, le sabre dans le ventre. Hein. C'est comme les avions. Sur les pilotes d'avion sur les bateaux, Banzai. Mieux vaut mourir que de se rendre. Hein? Eh bien, pratiquement, c'est ça. L'honneur est sauf. Eh bien, ils ont provoqué Gédéon qui les a tués. Et après, on voit que Gédéon compte sur ses propres forces. Il compte sur des moyens humains. Or, Dieu avait fait la victoire avec ses moyens divins. Méfions-nous, nous, chrétiens, quand nous avons eu des bénédictions. Après, on revient charnel pendant tout un temps et on prend des attitudes qui ne sont pas celles que Dieu a demandées. Méfions-nous de nous-mêmes, parce que le péché, il aime bien de revenir, d'en remettre une couche, et on compte sur soi, et on fait des choses qu'on ne devrait pas faire. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans Ésaïe, au chapitre 18 et au chapitre 19, il y a des promesses sur la conversion de ces peuples-là. On va en lire juste un. Pourquoi ne pas se mettre à prier pour ses ennemis? Pourquoi ne pas demander l'autorité de Dieu sur les ennemis? Pourquoi ne pas chercher le plan de Dieu et dire et pas suivre l'adrénaline, et pas suivre le moi-je? Hein? C'est des leçons pour nous aussi, tout ça. Ésaïe, chapitre 19. Ésaïe, chapitre 19. Verset 21 et suivant. L'Éternel sera connu des Égyptiens. Ésaïe 19, verset 21. L'Éternel sera connu des Égyptiens. Les Égyptiens connaîtront l'Éternel ce jour-là. Ils feront des sacrifices, des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir des choses comme là, Israël, avec, où ils sont tous tués, ils sont perdus. Et effectivement, c'est arrivé. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Et il les frappera, mais il les guérira. Il se convertira en l'Éternel qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte, les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens et les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, l'Assyrie, œuvre de mes mains, Israël, mon héritage. Donc les peuples qui sont, je dirais, cet îlot de d'hommes avec les deux chefs, de 15 000, pourquoi les déglinguer, pourquoi les tuer? Dieu n'a-t-il pas des plans même pour l'ennemi, pour celui qui n'aime pas Dieu, pour celui qui croit et autrement, pour celui qui est opposé? Dieu n'a-t-il pas des plans? Romains 2, il est... Nous sommes inexcusables quand nous jugeons les autres, nous qui faisons la même chose. Paul le dit, dans Romains chapitre 2, verset 1. Il faut toujours arrêter notre pensée, il faut toujours arrêter notre cinéma, il faut toujours s'en remettre à l'autorité de Dieu. Il faut toujours arrêter devant ses pieds et dire, Seigneur, quel est ton plan? Et prendre le temps de méditer, de chercher, quel est ton plan pour celui-là qui est mon ennemi, pour celui-là qui me fait du mal, pour celui-là qui ne te veut pas, quel est ton plan? Moi, je ferai ci, je ferai ça. Mais Seigneur, je vais attendre que tu décides, que tu m'instruises. Puis je ne comprends pas, mais je vais demander à d'autres frères et sœurs, je vais prier avec eux, leur demander de jeûner, de prier, pour savoir ce qu'il faut faire. Parce que nous sommes dépourvus d'intelligence, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour nous éclairer. Oui. Au chapitre 18, verset 7, en ce temps-là, des offrandes, Isaïe 18, verset 7, seront apportées à l'Éternel des armées. Par le peuple, armée, ça veut dire les anges, hein, par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, dont le pays est coupé vers des fleuves. Donc ça, c'est la Syrie, Syrie-Irak. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées sur la montagne de Sion. Et si vous prenez un psaume... C'est pour ça que Gédéon a perdu la visibilité. Il a perdu la visibilité spirituelle. Il l'avait reçue avec le coup de la toison humide et puis le pourtour de la toison humide. Et puis la vision des ennemis dans le camp, il l'avait entendu. Puis il voit la bataille, elle est gagnée. Et il perd la visibilité spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il écoute son péché. À nous de réfléchir. Les récits de la Bible ne sont pas là pour... nous refaire une grosse tête, ils sont là pour nous donner une direction spirituelle. À nous de réfléchir. Comment fonctionnons-nous? Alors, regardons. Dans les psaumes 87. Quand Paul dit dans Romains, chapitre 12, verset 1, le renouvellement de l'intelligence, de chercher tout ce qui est bon et agréable à Dieu. Mais oui, mais oui. Évidemment, pas 5 minutes, tous les 6 mois. 60 minutes sur 60 minutes. Psaume 87. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Tiens. Oh. Voici le pays des Philistins. Tyr, avec l'Éthiopie, c'est dans Sion qu'ils sont nés. Nés comment? Spirituellement. Donc c'est une question de salut ici. C'est une promesse, ça. C'est une vision divine. Et de Sion, il dit, tous y sont nés, c'est le Très-Haut qui l'a permis. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent écrivent toutes mes sources en toi. Alors, Au nom de quoi, à un moment donné, quand quelqu'un a été humilié, brisé par Dieu, je devrais l'achever? Est-ce que je suis juge? Je devrais l'achever. Vous voyez, Gédéon s'est lourdement trompé en éliminant les 15 000 survivants. C'est un peu comme Élie, quand il a son bûcher avec toutes ses offrandes, sans gagner, il a gagné. Et le Baal, il est Astarté, ils sont couverts de honte. Tous les 800 prêtres sont déglingués. Toute la foule est avec lui. Et tout d'un coup, il dit, amenez-moi là au torrent de Kizon, je vais les trancher la gorge. C'est quand même bizarre parce qu'après, il fait une lourde dépression qui dure des dizaines et dizaines de jours. Est-ce que vous pensez que quand on a cherché réellement l'inventé de Dieu, est-ce qu'on a toujours pesé ses pas? Et quand on a cherché Dieu, est-ce que vous pensez qu'on tombe en dépression? Non, on a la paix et l'assurance. C'est quand on s'est égaré qu'on tombe dans la dépression, qu'on a les pneus à plat. Alors, angoisse et tribulation sur l'âme du pécheur. Romains chapitre 2. Mais oui, je pêche, j'aurai l'angoisse et la tribulation. À partir du moment où je l'ai lu, à partir du moment où je sais que c'est comme ça, pourquoi je ne change pas de cap, de méthode de vie, d'attitude? Pourquoi? Parce que je suis là, je suis trop. Je chipote avec moi et mon amour propre et mes plaisirs et tout. Ben, j'aurai les malheurs tout le temps. Pourtant, Dieu ne veut pas que je sois malheureux. Dieu ne veut pas que je sois malheureux. Jamais. Il n'a pas donné la vie pour que je sois malheureux. C'est pour que j'aie une nouvelle intelligence, une grande sainteté. Alors, Gédéon, bien sûr, lui, après ça, il va demander quelque chose au chapitre 8. C'est tous les croissants qui étaient au cou des chameaux, les croissants lunaires, au verset 21. Et puis, plus loin, encore, au verset 26, je vais lire seulement 25 et 26, le 21 en parle déjà, nous les donnerons volontiers, les ennemis se rendent, hein, ils préfèrent être vivants et donner leurs bijoux, et leurs idoles. Ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin, le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles, les vêtements de pourpre. Que portaient les rois de Madian sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux, etc. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Un éphod, une statue, et puis, il va faire aussi une statue après. Et l'éphod, c'est quoi?
Sacerdotal.
Et il va faire une statue. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir de l'idolâtrie dans le peuple. Pourquoi? Nous avons des bénédictions en Europe. Mais quand l'avion arrive des pays de la charia à Luxembourg, sur la nouvelle piste, au bout de la piste, il descend dans l'ascenseur et déverse l'or de toute la dîme des pays de la charia. Pour le mettre là, dans des murs de 3 mètres de béton. Et tout l'argent aussi du Vatican vient dans des banques rue Royale. Alors, c'est quoi ça? C'est un peu la même chose. J'ai parlé avec des personnes qui ont été aux États-Unis, qui vont dans les églises évangéliques. L'argent a une grande place dans les églises évangéliques aux États-Unis. Trop de place. Beaucoup trop de place. Et on pense que les bénédictions, c'est quand on a des grands bâtiments et beaucoup d'argent, beaucoup de comptes en banque. Il y a une place énorme à l'argent dans les églises. Pas toutes, mais dans une majorité d'églises évangéliques. Et bien sûr, les églises catholiques, ça, il n'y a pas de problème. On l'aime depuis longtemps, l'argent et le pouvoir. Mais ce qu'il y a, il y a toujours une corruption derrière une satisfaction. Quand j'ai réussi quelque chose, j'ai une satisfaction, je dois rendre gloire à Dieu. Je dois m'incliner devant Dieu et lui dire merci. Si je suis satisfait et que je ne rends pas gloire, et que je ne mets pas Dieu à première place, je vais dans un chemin de corruption. Inévitablement, parce que ma chair, mon être humain, est attaché au péché. Et je l'écouterai. Bien plus que je ne pense. Je me réveillerai peut-être des années ou des mois plus tard en disant, qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Dieu est patient un certain temps. Vous voyez, et qu'est-ce qui va se passer encore dans cette famille de Gédéon? Eh bien, Gédéon, chapitre 8, verset 30, Gédéon eut 70 fils issus de lui, car il eut plusieurs femmes. Donc voilà, Gédéon, en plus de la statue de l'éphod, en plus de l'or, en plus d'avoir, pour moi, à mon avis, tué inutilement, même à tort, des gens qui, tout compte fait, sont sous une promesse, ils auraient déjà perdu la bataille, pourquoi il les a achevés jusqu'au dernier? Eh bien, voilà qu'il a plein de femmes. Mais pourtant, Dieu a dit, tu quitteras ton père et ta mère, et tu feras une seule chair et une seule femme. La loi de Dieu, c'est une femme, un homme. Alors, ça y est, encore un, une corruption. Satisfaction, corruption. Alors, il va y avoir des enfants. Sa concubine qui était à Sichem lui enfanta aussi un fils à qui on donna le nom d'Abimélec. Et ça, c'est un caïd, hein. Ben, il va éliminer les 70 autres. Et tantôt. Ah oui. Vous lirez le chapitre 9, vous verrez. Allez, boum. Vous voulez savoir où c'est le verset? Chapitre 9, verset 5. Il vint dans la maison de son père à Ophra, il tua ses frères, fils de Jérubal, donc Gédéon, 70 hommes sur une même pierre. Sur une même pierre, ça veut dire qu'il essaye comme des porcs, sur la même pierre. Vous voyez à quel point cet homme est devenu son, le fils est devenu corrompu. Pourquoi qu'il a des démons en lui? Pourquoi est-ce qu'il a des puissances comme ça? Parce que le père a accepté les démons dans sa vie. Le père a déjà accepté. Avec les amulettes et tout ça, et la statue et les potes, ben il a ouvert la porte à tous les bataillons, à toutes les légions de démons. La responsabilité d'un papa sur la vie de ses enfants, extrêmement grande. La responsabilité paternelle est très grande. C'est pour ça que Jésus demande que le papa aime sa femme et sa famille comme Christ a aimé l'Église. Et là, à ce moment-là, on peut dire que c'est de la consécration réelle. Réelle. On se vit très bien des problèmes. Je pense que si on obéissait parfaitement à Dieu, vous me direz, on peut toujours rêver. Non, on peut toujours se repentir, échanger, s'améliorer. Oui, rêver, je ne pense pas. Ce serait de l'idéalisme. Se repentir, s'humilier devant Dieu. Alors, le chapitre 9, c'était une histoire d'un massacre dans la famille. Et bien sûr, Abimélec va être lui-même l'objet de l'hostilité d'une ville, d'un tas d'Hébreux. Il va se faire aussi tuer. Donc, au chapitre 9, verset 22, Abimélec avait dominé 3 ans sur Israël. Ça n'a pas duré longtemps. Alors, Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimélec et les habitants de Sichem. Donc, Dieu permet à Satan d'agir pour briser Abimélec. Ça va? Il faut lire, hein? Il faut s'instruire, il faut chercher. Je ne veux pas tout lire parce que le culte n'est pas fait pour ça. Mais nous avons des heures le dimanche pour lire, pour méditer. Et donc, quel est le résultat? Chapitre 10, verset 1. Après Abimélec, Tola, fils de Pua, fils de Dodo, homme d'Issacar, se leva pour délivrer Israël. Pourquoi? Il faut encore un juge. Pourquoi, les amis? Mais parce que, regardez au verset 6, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, ils servirent les Baals, donc sacrifice humain, prostitution sacrée, etc. Et les Astarté, donc Astarté, Asherah, c'est une déesse qui vient de Babylone. Asherah avait été appelée aussi du temps de Ésaïe, de Jérémie, la reine du ciel. On lui offrait des gâteaux, etc. Et devant la statue. Et puis ça est passé en Grèce. C'est devenu Artémis. Les Grecs adoraient Artémis. Et puis c'est passé, c'était Éphèse, la capitale d'Artémis. Donc Asherah, Ishtar, tout ça c'est la même chose. C'est les mêmes démons qui prennent la forme d'une femme blanche qui vient du ciel. Paul le dénonce dans les actes, chapitre 19, verset 35, où vous, fameux, les gardiens, dont la fameuse gardienne de la ville, vous, habitants d'Éphèse, dont la fameuse gardienne est Artémis, et son simulacre d'être tombé du ciel. Donc pratiquement, c'est là, en 431, en 421, l'empereur soi-disant chrétien a obligé tous les évêques à se réunir dans un local fermé, gardé par les soldats, pour voter le culte Marie, Mère de Dieu. Et on a pris toutes les prières d'Artémis, on a supprimé le nom, c'était Reine du Ciel, Astre Brillant, etc., Médiatrice, on a mis au-dessus Marie, Mère de Dieu. C'est l'empereur avec les soldats. Dans le local, il y a un évêque qui est mort de ses blessures. Ben oui, celui qui ne voulait pas voter, il fallait bien lui faire changer les idées. Alors, les divinités sont toujours à l'œuvre aujourd'hui. Les divinités diaboliques sont toujours à l'œuvre. Et les voilà, les Astartés, aujourd'hui, à Lourdes, à Medjugorje, à San Damiano et tout le reste. Les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon, les dieux des Philistins, ils abandonnèrent l'Éternel et ne servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et les vendit entre les mains des Philistins, entre les mains des fils d'Ammon. Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là, pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël, qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens en Galat. Voilà. Il y a clairement une déglingue totale que Dieu a permis sur Israël, parce qu'ils ont adoré tout et rien. Les diables. Les amis, vous avez vu, on a lu les promesses sur ces peuplades, sur l'Égypte, sur la Syrie et l'Irak. On a vu les promesses. Dieu a un plan de salut. Dieu a un plan de salut sur Israël. Dieu veut réunir tous ces mondes à Jérusalem, à Sion. Donc Dieu le fera. Comme Dieu a brisé 120 000 hommes sans que Gédéon n'ait levé le petit doigt, il n'avait pas d'épée. Dieu le fera. Dieu a l'autorité. Maintenant, on va prendre un autre monsieur dans les Juges. C'est au chapitre 11. Jephté, le Galadite. Donc, Galade, c'est une région qui est actuellement en Syrie, et à cheval sur la Syrie et la Jordanie, qui est à l'est du Jourdain. Hein. Notamment, il y a le mont Golan, mais c'est plus large que ça. Galade était très grand. Jephté, le Galadite, était, donc c'est une tribu d'Israël, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée, et c'est Galade qui avait engendré Jephté. Donc, notre fils de Jacob, Galade, a forniqué quelque part, et il en reste un gosse quelque part. Peut-être qu'il ne s'en occupe pas. Mais toujours est-il qu'on va voir ce qui va arriver. La femme de Galade lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephté. Ben oui, ils ne veulent pas avoir le bâtard avec eux. Chasseur Jephté lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephté s'enfuit loin de ses frères. Il habita dans le pays de Tob, donc une région de Galade. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephté. Il faisait avec lui des excursions. Les excursions, ça veut dire des pillages, hein. Des coups à droite et gauche, hein. Et vas-y. Donc, mettez-vous à la place de ce garçon. Il est rejeté par toute la famille, qui a un mal-aimé. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le cœur d'un garçon comme ça? Soit de la déprime, la déglingue, boum. Et il est anéanti pour le reste de sa vie. Soit il est frustré et super agressif, et il fait du bodybuilding, il va réellement faire du basique, du fitness, et il en a marre d'habiter dans la ZUP, il en a marre d'être rien du tout, de ne pas avoir de boulot, de pas avoir de diplôme, il va avoir des gros biceps, et il va un jour casser la figure aux autres. Demandez à tous ceux qui font le seuil, qu'est-ce qu'ils veulent après. Qu'est-ce qu'ils veulent après, quand ils ont fait leur beefsteak. Demandez-leur peut-être, si on faisait une petite analyse de toutes les pensées, de tous les frustrés, agressifs, qui font du basique, fitness et tout le reste. On verrait bien. On verrait bien qu'il y a beaucoup de jeffetés. Moi j'en ai vu en prison, je vais dans les visites où je vais, j'en ai vu, j'en ai entendu. Je manie ça avec des pincettes, moi. J'écoute, je prie le Seigneur Jésus. Je rentre chez lui, mais tu es devant moi. Et tu le calmes. Tu le calmes, Seigneur Jésus, ou je ne rentre pas. Je reviendrai une autre fois, quand j'aurai plus prié ou jeûné. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a fait des coups, il s'est appris à casser la figure à des gens, il s'est appris peut-être à en tuer, il s'est appris à rentrer, à passer à droite et gauche, où là, quelqu'un de bien brave ne s'est pas passé. Et donc c'est un expert, un truand, très expérimenté, et qui a ses copains avec lui. Je vous dis de temps en temps que moi j'en ai en visite ici. Quand quelqu'un veut un morceau de beefsteak, ou un sachet de légumes que ma femme a fait, ou 50 euros, et ils m'ont toujours dit, le premier qui viendra voler ici, on lui cassera la figure. Donc je ne me ferme pas à clé. Je ne ferme pas à clé, c'est ouvert, vous pouvez venir ici la nuit. Alors, pratiquement, ce qui se passe, c'est qu'il faut bien se dire, avec Jefté, moi j'ai une méthode. Elle est en haut. Et il n'y en a pas d'autre. Les flics, les cadenas, les serrures, ça ne marche pas avec eux. Et leur tête est dure. Ça ne marche pas. En haut. Voilà. Retenez bien que c'est le Seigneur qui peut changer le cœur de quelqu'un. Dans toutes vos situations. Dans un bureau, dans un chantier, n'importe où. Même dans la famille, s'il y a un gugus comme ça, priez. Demandez à Dieu. Oh, mais j'ai prié. Oui, combien de temps? Oh, ben 5 minutes. Non, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Voilà. Quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Oula. C'est des tribus ennemies. Descendent Amon et Moab, c'est descendants de qui? De Lot. Lot. Qui a fait des enfants avec ses filles. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galate, ils sont désespérés bien sûr, parce que les autres c'est les Caïtes, les anciens de Galate allèrent chercher Jefté au pays de Tob. Ben oui, ils n'ont personne pour se battre contre eux, ils vont rechercher le gars qu'ils n'avaient pas envie de voir. J'ai un jour fait, philosophie, j'ai fait un mémoire sur la guerre et je me suis rendu compte en étudiant qu'on mettait au front soit deux façons de travailler pour les armées. On met au front tous les indésirables et tous les un peu maboules, ils se font mitrailler, ils sont nettoyés, on est tranquille, tous les asociaux, ça va. Soit on veut mettre la raclée aux autres, on sort les prisons et on dit, vous aurez une décoration, vous serez des héros. On les met devant, et tous les autres qui ont peur passent derrière. Et vas-y, Nanès, badaboum. Vous avez compris? C'est pas neuf sous le soleil. J'ai dû faire un mémoire là-dessus, sur la guerre, je vous dis que c'est pas du gâteau. J'avais passé mon temps, je voulais savoir ce que c'était qu'une guerre. Enfin, sans y être. Parce qu'on n'en revient pas souvent vivant, ou indemne dans la tête. Alors, vous voyez, ils dirent à Jefté, viens, tu seras notre chef, nous combattrons les fils d'Amon. Vous voyez, c'est ça. Jefté répondit aux anciens de Galate, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Ça y est, il râle, sec. Et il a de l'amertume. Ah. Vous allez voir, si je dis oui, après, je vous fais ramper, moi. Je vais me rattraper. C'est moi qui ai rampé avant, c'est moi qui vous ferai ramper. Les anciens de Galate dirent à Jefté, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous. Tu combattes les fils d'Amon, tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galate. Jefté répondit aux anciens de Galate, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amon, l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Tiens. Les anciens de Galate dirent à Jefté, besoin de pouvoir et de domination. Hein? Les anciens de Galate dirent à Jefté, que l'Éternel nous entende, qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jefté partit avec les anciens de Galate. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jefté répéta devant l'Éternel à Mizpa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Que vous voyez, voilà un Hébreu, un Caïte, qui n'accomplit pas la parole de Dieu et qui va être promu chef d'une tribu d'Israël. Vous rendez compte? Quel discernement ces gens-là? Oui, ils vont chercher par opportunisme, pas par discernement spirituel, pas par prière. Vous voyez la grave erreur? Par opportunisme, on choisit un chef. Donc, combien de fois on vote dans nos pays pour choisir un homme politique, un dirigeant par opportunisme? Tout le temps. Il n'y a jamais de jeûne et de prière dans nos pays. Jamais. On ne consulte l'Éternel. Par exemple, je me rappelle, donc c'est un hébreu, prenons le cas d'un juif qui était en Russie, quand Staline et tous les autres prennent un peu... Lénine meurt, Staline prend du pouvoir, mais il y en a un autre, un juif, qu'on a appelé Trotsky après. Mais c'est un faux nom, c'est un vrai juif, très calé, très intelligent. Il a fait plus de morts que Staline, Trotsky, puis s'est fait assassiner plus tard en Amérique du Sud par des hommes de Staline. Mais s'il avait régné et que Staline avait été le petit Nabokov qu'on tuait, ça aurait été égal. Pourquoi ce juif qui est là a fait tuer des juifs et des chrétiens en Russie? Pourquoi? Vous voyez, quelle enfance a-t-il eu? Quelle enfance a-t-il eu? Prenons le cas de Attila. Attila qui vient dans le nord de la France et qui rencontre le pape et qui retourne. Mais il a envahi tout. Tout jusqu'au milieu de la France, Attila. Avec les Huns et tout ça. Et toute cette bande de rigolos. Hein? Comme je fais. Eh bien, étant gamin, il était orphelin. Et il a été accueilli dans une famille chrétienne à Constantinople. Il a été bien élevé. Il a entendu l'évangile. Il a vu la croix. Il a entendu des chants et des prières. Puis il est reparti. Et il n'a pas été aimé. Il n'a pas été aimé. Ben moi, je vais leur montrer que je ne suis pas aimé. Il est devenu un caïd. Il a oublié ce qu'il avait entendu. Il est devenu caïd. Il s'est imposé. Et c'est lui qui a fait déferler tous les Huns sur toute l'Asie et l'Europe. Eh oui. Quand il a vu la croix et la Bible que tenait le pape, il s'est rappelé la famille où il avait été enseigné. Il lui dit, maintenant je retourne. Qui a fait reculer Attila? Simplement Dieu. Simplement Dieu. Il est bien capable de continuer, de faire tout le tour de la Méditerranée, de raser tout. Il y a des gens comme ça. Vous voyez, la semence de Dieu peut avoir une autorité et avoir besoin des pays. Il n'y a pas besoin des pays pour faire retourner Attila. Les amis, ils ont choisi quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Ils ont choisi quelqu'un parce qu'ils n'aiment pas non plus. Ils ont choisi pour opportunisme un caïd. Voilà. Alors, verset 12, chapitre 11, verset 12, Jephté envoya des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire, qu'y a-t-il entre moi et toi? Que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays. Vous voyez, lui, il a une technique, hein? Allez, on va mettre les choses au point tout de suite. Alors, il y a toute une ancienne histoire, il y a une frustration énorme, c'est que Ammon veut récupérer des territoires qui étaient à eux. Mais, les Hébreux ont pris ces territoires. Pourquoi? Parce que tout simplement, au moment où ils venaient du désert, ils venaient d'Égypte, ils auraient voulu passer, recevoir à manger, à boire, et venir en Palestine, venir sur la terre d'Israël. Et les autres n'ont pas voulu. Et il y a eu une bagarre, et cette bagarre a amené Ammon à perdre des territoires. Alors il y a toujours une amertume, une rancune de Ammon contre Israël. Ok ? Et donc, c'est cette discussion-là qui ne satisfait personne. Et regardons verset 21, chapitre 11, verset 21. Voilà, l'Éternel, le Dieu d'Israël, livra Sion et tout son peuple entre les mains d'Israël qui les bâtit. Israël s'empara de tout le pays amoréen établi dans cette contrée. Donc, voilà la description. Et Jephté dit, ben non, c'est à nous, c'est notre territoire, tu n'as pas le droit de nous attaquer, c'est Dieu qui nous l'a donné. Verset 23, maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a chassé les Amoréens devant son peuple d'Israël, est-ce toi qui aurais la possession de leur pays? Tu viens au nom de quoi là? Alors voilà Jephté, le truand, qui dit, moi ce territoire-là, il appartient à Dieu. Et, vous vous rendez compte que c'est le gars dont on ne pensait pas qu'il allait avoir une pensée pour Dieu, ce gars-là dit, mais non, c'est Dieu qui l'a donné. Vous n'avez pas le droit de le réclamer. Donc il se met sur un terrain, là le vrai terrain. Le vrai terrain de la discussion, c'est ça. Et c'est pourtant un gars qui n'a pas été convenable jusqu'à ce moment-là dans sa vie. Est-ce que Dieu ne peut pas maîtriser la pensée d'un gars rude et bagarreur menteur Pierre, peut-être un meurtrier, comme Jephté, pour l'amener sur le terrain de sa propre pensée. Oui, Dieu est capable de cela. Dieu est capable de cela. Il m'est arrivé dans des visites, dans le ministère, d'avoir des gens dont je n'aurais rien misé sur eux. Et Dieu, après la prière, après du temps dans la prière, Dieu a changé les choses en profondeur. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de Dieu. Il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on voit, à ce qu'on entend. Jamais. Dieu a le contrôle. Alors, la discussion est bien sûr à approfondir. Vous lirez, ça vaut la peine. Et il ne va pas se laisser faire. Et Jephté va dire ceci, verset 27. « Je ne t'ai pas offensé. Tu agis mal avec moi en me faisant la guerre. » Que l'Éternel le juge soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Amon. Voilà, dis bien, qu'un homme dont on ne penserait jamais qu'il soit spirituel pour un gramme, et le voilà qui dit des choses claires. C'est Dieu qui sera juge. Il s'en remet à Dieu. Les rois des fils d'Amon n'écoutent à point les paroles que Jephté lui fit dire. Ben oui, Dieu, on s'en fout. Nous, on a nos dieux, ce foutu Dieu d'Israël. Il n'a rien à nous dire. Eh bien, au verset 29, nous voyons qu'il y a un revirement, il y a une porte ouverte dans le cœur de Jephté, et l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephté. Les amis, quand dans la première église chrétienne, en Israël forcément, est arrivé Saul de Tarse, assassin, un ayatollah, un fanatique qui avait fait tuer des chrétiens. Quand il est arrivé, qu'est-ce qu'ont pensé les chrétiens? Même les apôtres. Hein? Ça y est, on est cuit, il vient parmi nous. Non, il a été pendant 3 ans évangélisé en Arabie. Ah oui, il savait qu'on ne serait pas aimé. Puis il est revenu. Et puis il a été voir. Avec Barnabas, il a été voir les apôtres. Et pratiquement, les choses se sont bien passées. Pourquoi? Parce que Saul de Tarse, devenu enfant de Dieu et ministre de la parole, aller chez les Arabes, c'est aller chez les Madianites, c'est aller chez les Amalécites, c'est aller annoncer l'évangile. Ce qu'on a vu que Gédéon condamnait, il voulait tuer jusqu'au dernier, et lui, il a été le faire. Il a été le faire. Et pourquoi est-ce qu'à la Pentecôte, tout d'un coup, quand les apôtres parlent en langue, il y en a qui parlent en arabe à ceux qui sont là? Vous avez déjà vu chapitre 2? Donc Dieu n'a pas mis les Arabes de côté. Encore aujourd'hui, quand moi je m'en vais quelque part, je rencontre des Arabes, des musulmans, il n'y a pas à aller attraper la rougeole en les voyant. Il faut savoir que Dieu a un plan pour eux. Et pratiquement, eh bien pratiquement, ce qui va se passer, c'est que, regardez bien, verset 29, l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephté. Il traversa Galate et Manassé, il passa à Mitzpé de Galate. De Mitzpé de Galate, il marcha contre les fils d'Amon. Donc il collecte les gens. Il aurait voulu éviter la guerre, puisqu'il a dit non, non, ne viens pas nous attaquer. C'est Dieu qui nous l'a donné. Il aurait voulu. Un bagarreur qui ne veut pas la bagarre. Un bagarreur qu'on engage pour faire la bagarre, qui ne veut pas la bagarre. Ben oui. Vous voyez la logique de Dieu? Voilà que le bagarreur veut plus bagarrer. Comme Balaam, quoi. Balaam qui était payé pour maudire Israël. Balaam bénissait Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu peut retourner nos logiques. Dieu peut retourner nos plans. Il faut faire attention. Quand, souvent, dans Jean chapitre 10, on voit que Jésus dit « Nul ne vous ravira de la main de mon Père. » Et de la main de mon Père. Oui, on pense à la sécurité. Je suis dans la sécurité de Dieu. Mais il faudrait d'abord penser « J'appartiens à Dieu. » Donc, il va faire de moi ce qu'il veut. On pense toujours sécurité, nous, en Europe. D'ailleurs, on vote quelqu'un pour la sécurité en général, et puis après, on a l'insécurité. Mais ce qu'il y a avec Dieu, ce n'est pas la sécurité d'abord. C'est la vérité. C'est la souveraineté de Dieu. C'est sa bénédiction, si on obéit. Là, il y a la sécurité, si on obéit. Alors, il va mettre la raclée, bien sûr, à tous ces gens. Hein, et Vous pouvez voir ça au verset 32. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon, l'Éternel les livra entre ses mains, il leur fit éprouver une grande défaite, depuis Arour jusqu'à Minit, etc. Ils furent humiliés par les enfants d'Israël. Mais le problème, il y a un petit problème qui heurte toujours la conscience de certains chrétiens. Voilà que quand ils rentrent à la maison, la fille sort avec des tambourins, les autres jeunes filles, sa fille, et elle fête son papa, parce que c'est un caïd, c'est Élodie qui fête son Jean-Louis qui a été faire la bataille et qui a gagné. Et Élodie aime tellement bien son papa, et Apinès aussi. Elles sont en train de sauter et de danser avec des tambourins, elles dansent. Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même bizarre. C'est que Jephthé avait fait un serment. Il s'est empoisonné la vie avec un serment que Dieu ne lui avait pas demandé de faire. Il avait dit juste un peu avant, un chapitre avant, vous le trouverez, si vous lisez, vous le trouverez. Je consacrerai le premier qui sortira de ma maison pour gratifier Dieu si j'ai gagné la bataille. Je consacrerai, je veux dire, je fais du feu, cuit, je le brûle.
Oh non.
Et c'est pas un agneau, c'est un être humain. Mais ça, c'est Jephthé le dur. Jephthé le dur qui va ramasser la bave de sa vie et quand il voit que c'est sa fille, il s'effondre. Et bien sûr, il laisse quelques mois de répit à sa fille, puis après, il faut y passer. Crac. Dans tout ça, c'est un grand drame. Regardez au verset 39, chapitre 11, verset 39. Au bout de deux mois, elle revint vers son père. Il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors, s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé. Donc, c'est un drame. C'est un drame vraiment, parce que cet homme, tout compte fait, aimait sa fille, et il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Allons voir dans Matthieu chapitre 5. Et méfions-nous de ce qu'on peut faire nous-mêmes. Matthieu 5. Les cloches viennent de sonner. C'est le point de repère pour s'arrêter. Hein, mais bon, on va bientôt arrêter. Chapitre 5, et c'est à propos du serment. Verset 33. Matthieu, chapitre 5, verset 33. Et évidemment, c'est un texte par Matthieu qui s'adresse à tous les chrétiens d'origine juive. Et oui, Matthieu, il a écrit son évangile d'abord pour des communautés chrétiennes essentiellement d'origine juive. Ah, ben ceux-là, ils connaissent l'histoire de Jephthé. Il y a une fête tous les ans.
Ah, oui.
Et ils la connaissent. Et quand Jésus va enseigner ça, comme d'autres histoires, où les serments ont mal tourné, eh bien, Dieu va pouvoir prendre autorité. Qu'est-ce que ça veut dire faire un serment? Je suis capable de dire une parole, elle s'accomplira. Non, il n'y a que Dieu qui peut dire ça. Il n'y a que Dieu qui peut dire ça. Méfions-nous de l'arrogance du côté prétentieux hérité du péché d'Adam et Ève qui est en nous. Méfions-nous. Matthieu, chapitre 5, verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, et tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Que votre parole soit oui, oui, donc à Dieu, non, non, à Satan, et ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc, l'amour propre, qui nous fait prêter des serments, l'amour propre, c'est l'amour mal propre. L'amour propre, c'est de l'amour mal propre, c'est mal placé, pour Dieu. Je serai convoqué en cour d'assises, probablement, pour une affaire, et comme témoin, je n'ai pas choisi, hein. C'est comme ça. Et je connais le truc, hein. Le juge, il va dire, il est assis, moi je suis debout, devant le pupitre, veuillez prêter serment. Je dirais, je ne prête pas serment, c'est le juge. Il m'y refuse. Vous acceptez ma parole comme elle l'est, vous ne l'entendrez pas. Je ne veux pas aller prêter serment. Je l'ai fait une seule fois pour... quand j'ai vu les gugus après, tous alentours, ce qui faisait de ma parole, non, j'ai compris que Dieu ne m'avait pas approuvé. Je ne le ferai plus. Un mennonite, dans les églises mennonites, les évangéliques mennonites, la loi française leur permet de ne pas prêter serment dans un tribunal. La plupart des mennonites maintenant ne le savent plus. Parce qu'ils avaient dit devant tous les magistrats, Dieu nous interdit de prêter serment. Et la loi française avait fait une exception, si je penserais au temps de Bonaparte. Et les mennonites refusaient d'être juges, avocats, etc. Dans toute cette rue-là où on trafique, on ment comme on respire souvent. Vous voyez ? Et ils refusaient tout ça. Ils refusaient aussi d'être dans les directions financières et tout. Maintenant, le temps a bien changé. On trouve chez les mennonites de tout, comme partout, chez les chrétiens. Même de l'occultisme, des fois. Le peuple de Dieu est bien souillé souvent. Le temps de la persécution étant fini, on arrange la sauce comme on veut, à notre façon. Quand on est persécuté, on est obligé de savoir si on est avec Christ ou pas. C'est là que ça se tranche. Ici, en tout cas, c'est clairement mis, Jésus ne veut pas de serment. Parce que quand nous prêtons serment, généralement, combien de gens vont faire ça? Je le jure, monsieur le président, monsieur le juge, et puis... Si vous saviez ce qu'on raconte, j'ai déjà souvent été assis dans les tribunaux. Oh là là, qu'est-ce qu'ils s'en foutent bien d'avoir dit, je le jure. Hein. Apocalypse 21, verset 6. Une des choses qui fait le plus de mal au monde, c'est la fausse parole, c'est le faux témoignage. Chapitre 21, verset 6. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc Jésus arrive, il établit son règne. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. Soif de quoi? La vérité. Rien d'autre. Hein? Celui qui vaincra, héritera ces choses. Donc il faut vaincre, il faut être clair. Je serai son Dieu et sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de soufre. Dans tous les tribunaux, près de serment. Alors, combien, ce jour-là, s'exposent au jugement de Dieu? Parce qu'ils font n'importe quoi, je jure devant Dieu. Je jure, maintenant, peut-être qu'on ne prononce même plus le nom de Dieu, mais attention. Au chapitre 22, verset 15, « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » Quiconque aime et pratique le mensonge. Le serment est souvent un mensonge. Et Dieu m'a pas donné d'entendre quelque chose que, de toute façon, il n'est pas juste. Donc, vous voyez avec Jephté, il s'est mis dans le drap, il a perdu sa chère fille qu'il aimait, il va s'effondrer, il va être malheureux. Il va être malheureux parce qu'il ne veut pas perdre l'autorité sur la tribu, il veut garder l'autorité qu'il a gagnée. Il aurait pu dire, non, je ne la tue pas, c'est pas possible. Non, je retire ma parole. Il ne serait pas chef. Tous les autres auraient critiqué, un autre aurait pris la place, c'était la pagaille. Mais tant pis, il serait parti avec sa fille. Il n'a pas fait. Pourquoi il n'a pas fait? Parce qu'il a besoin d'être le chef. Il a besoin d'être le meilleur, le plus beau, le plus vrai, le plus faux.
C'est comme les grandes avec la tête de Jean-Baptiste.
Et méfions-nous, nous parfois, méfions-nous. Est-ce qu'un chrétien doit faire la politique? Attention, les amis. Il faut vachement être ferré pour tenir le coup sans mentir là-dedans. Est-ce qu'un chrétien peut être avocat? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. J'ai rencontré quelqu'un, un jour, un avocat, dans tous ceux que j'ai pour les réfugiés qu'il y avait ici. Je lui ai dit, vous n'avez jamais menti quand je suis venu vous voir. Car vous n'aviez pas lu le dossier, vous le disiez, je ne l'ai pas lu. Mais dans la salle d'attente, il y avait un texte de l'évangile mis au mur. Pourtant, il y a plein de musulmans, il y a trois gars qui passaient là et là. Et il ne m'a jamais parlé de Dieu. Il a dit, je vais vous le dire franchement un jour, je ne sais pas si on se reverra, on va se revoir pour une affaire, mais je ne pensais pas y retourner. Je vais vous dire, Vous êtes le seul qui n'a pas menti dans tous les avocats que j'ai rencontrés pour les réfugiés. Si vous passez dans le coin de Virton, vous pouvez vous arrêter et venir en vacances. Vous serez le bienvenu. Et pour les autres, tout est arrangeable. J'ai été une fois à une affaire, à un avocat à Longwy. L'avocat a dit clairement devant moi et devant Jean, Monsieur, depuis que vous êtes devenu chrétien, vous ne savez plus mentir. Ne venez pas avec moi au tribunal. Vous allez faire tout rater. Je me débrouillerai tout seul. Et effectivement, il a gagné. Il n'avait que des mensonges. J'ai vu le dossier après. Il n'y avait que des mensonges, les amis. Pauvre justice humaine. Alors, dans le 10e commandement au mont Sinaï, qu'est-ce qu'a dit Dieu ? Tu ne feras pas de faux témoignage. Dieu savait déjà d'avance les lascars qu'il y avait sur la terre. Alors, Jephté a quand même des belles choses. C'est que d'un homme, je dirais, très isolé, très agressif, qui s'est mal conduit, qui s'est perdu, Dieu lui a éclairé et lui a dit, ce territoire, c'est ni l'homme, c'est pas l'homme qui l'a donné, c'est moi. Il a été attentif. Il a voulu faire comprendre à l'ennemi qu'il ne fallait pas faire la guerre. Il a fait ce qu'il devait faire. Après, il y a eu la guerre, il a défendu son peuple, mais après, il n'a pas fait la guerre à lui-même. Il avait fait un serment. Même quitte à perdre son honneur, perdre les amis, il devait dire, je n'aurais pas dû le faire. Je pars avec ma fille et ma femme dans une autre tribu, je vais autre part, mais je ne fais pas ça. Tu ne tueras point. Je ne peux pas soumettre ma fille à une iniquité qui vient de moi. Ou alors tu es moi à sa place. Cet homme a montré sa faiblesse. Il a montré qu'il voulait garder sa parole, son honneur, avoir le pouvoir. Souvent, on perd notre dignité en cherchant du pouvoir, en cherchant à monter sur la tête à quelqu'un d'autre. Il est monté sur la tête à sa fille. Dans la politique, on monte toujours sur la tête aux autres pour être au-dessus. Et on perd, on garde un honneur apparent. On devient chef. Mais pour Dieu, on est sans honneur. Dieu ne voit pas les choses de la même façon. Celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Que Dieu nous bénisse en ce jour, en ce dimanche. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui veut prier, qui veut chanter ?